Je présente donc aujourd'hui Paul Dumouchel. Paul Dumouchel est philosophe. Il est né à Ottawa, au Canada, en 1951. Il est docteur en philosophie, spécialiste de philosophie politique et de philosophie des sciences. Il est actuellement professeur titulaire de philosophie à l'Université du Québec à Montréal, où il enseigne depuis 1988. Je rappellerai un petit peu de son parcours, puisqu'il a enseigné à l'Université d'Orléans, à l'École polytechnique de Paris, à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Waterloo. Il a été également chercheur invité à l'Université de Kyoto au Japon. Il est cofondateur avec Jean-Marie Domenac et Jean-Pierre Dupuis du Centre de recherche en épistémologie appliquée, le CREA, de l'École polytechnique à Paris. Parmi ses publications, il est l'auteur de deux ouvrages. Tout d'abord, « L'enfer des choses » avec Jean-Pierre Dupuis, qui est paru au Seuil en 1978 et qui a été traduit à la fois en allemand et en japonais. Il est également l'auteur de « Émotions » qui a été publié aux éditions Saint-Élabo en 1995 et qui a été réédité en 1999. Il a également dirigé la publication de plusieurs ouvrages que je vais donner maintenant. Tout d'abord, « L'auto-organisation de la physique aux politiques » avec Jean-Pierre Dupuis, paru au Seuil en 1983. « Violence et vérité autour de René Girard », paru chez Grasset en 1985 et qui a été traduit en anglais après. « Action Theory and Literature », paru chez Stanford French Review en 1993. Tolérance, pluralisme et histoire, qu'il a dirigé avec Bjarne Melkevik, qui est paru à Montréal, Paris, L'Armatan, 1998. Et enfin, tout dernier ouvrage, Violence, victime et vengeance, paru à Montréal, presse de l'Université de Laval, et qui devrait sortir demain, donc que M. Dumouchel n'a pas encore eu le temps de voir et qu'il verra à son retour au Canada.
Je vous remercie. Je voudrais premièrement vous souhaiter le bonjour et remercier les organisateurs de l'Université de Tous les Savoirs d'avoir bien voulu m'inviter dans le cadre de cette opération. Alors, je voudrais aujourd'hui, en fait, vous proposer une thèse. Cette thèse, c'est qu'il y a un lien fondamental entre le pluralisme des valeurs, d'une part, et d'autre part, la démocratie représentative moderne. J'insiste sur le fait que, selon moi, ce lien est un lien non pas entre la démocratie et le pluralisme des valeurs, mais qu'il est un lien entre le pluralisme des valeurs et la démocratie représentative comme telle. Ce que je vais essayer de défendre un peu plus loin, l'idée que les démocraties directes n'ont pas cet effet sur le monde des valeurs qu'a la démocratie représentative. Ceci veut dire aussi que, contrairement à ce qu'on pense souvent, le moteur ou ce qui est opérateur dans la mise en place du pluralisme des valeurs, ce n'est ni la rencontre, essentiellement la rencontre avec des peuples différents, ni l'effet de la technique moderne sur les valeurs traditionnelles. Ces rencontres ont eu lieu, ces effets existent, mais la mise en place du pluralisme véritable, pluralisme des valeurs comme tel, c'est véritablement la démocratie qui en est le moteur. Pour essayer de défendre cette thèse, il faut dans un premier moment distinguer le pluralisme politique du pluralisme des valeurs. Par la suite, si le temps le permet, je parlerai aussi de ce que, faute de mieux, j'appelle le pluralisme philosophique, bien que ce ne soit probablement pas la meilleure façon de nommer ce que j'ai en tête. Alors, premièrement, qu'est-ce que le pluralisme politique ? Alors, le pluralisme politique, c'est bien sûr la chose toute simple que nous connaissons et qui s'appelle le multipartisme. Le fait qu'il existe plusieurs partis politiques différents, porteurs de projets sociaux et politiques différents et généralement opposés. Mais c'est aussi le fait que le débat sur le bien commun que ces partis politiques représentent est constitué ou plutôt institutionnalisé comme étant interminable, que ce débat est à proprement parler sans fin et que ce caractère interminable de ce débat fait partie de la structure politique. En ce sens, le pluralisme politique est la démocratie représentative moderne. Car sans parti politique, et c'est la première thèse que je vais essayer de défendre, sans parti politique opposé, il n'y a pas d'opposition politique comme telle, mais des individus isolés opposés au pouvoir politique, et il n'y a pas non plus de démocratie représentative comme telle, mais le gouvernement d'une élite, d'une élite politique, même si ce gouvernement est, à proprement parler, élu. Alors, premier point. En l'absence d'opposition politique constituée, me semble-t-il, constituée comme un tout, les élus ne représentent plus qu'eux-mêmes. Pourquoi ? La raison pourquoi les élus, dans ces circonstances, ne représentent plus qu'eux-mêmes, c'est parce que, à proprement parler, ils sont réduits à faire de leur mieux. Je m'explique. Dans les régimes politiques comme les nôtres, les élus ne sont pas tenus par un mandat explicite au nom duquel ils peuvent être révoqués si, par hasard ou pour une raison quelconque, ils ne le suivent pas. Or, si, quand ceci est le cas, et qu'il n'y a pas d'idéal politique, chacun d'idéal politique partagé entre les différents députés, chacun est réduit ou n'a plus qu'une chose à faire, elle consiste à agir de son mieux, au mieux de sa conscience, pour représenter les intérêts de ceux qui l'ont élu, des membres de sa circonscription politique. Mais comme ces intérêts sont multiples et qu'ils sont multiformes, il lui faut choisir. Or, ce choix, il va le faire tout simplement au mieux de sa conscience, et en cela, il sera un individu moral et rationnel. Mais à ce moment-là, il ne représentera que lui-même et que sa conscience comme individu moral et rationnel. Soit ce choix, il le fera en fonction de ses intérêts, en quel moment il ne sera pas un individu moral, mais il sera néanmoins un individu rationnel, et à nouveau, il ne représentera que lui-même. Dans ces conditions, il n'y a donc en un sens pas à proprement parler de représentation politique. Mais la gestion par une élite politique qui ne représente qu'elle-même et qui soit est dotée d'un intérêt véritable pour la pensée, pour le bien des autres, soit ne cherche que son propre avantage, mais à ce moment-là, néanmoins, ne représente pas véritablement les autres. Ceci change, et c'est le point important, le rapport du pouvoir politique au bien commun. En effet, l'action politique ne peut être rationnelle que si les membres de cette élite politique partagent la même conception du bien commun. Car s'il existe des objectifs politiques différents, réduire les impôts, protéger la sécurité sociale, augmenter la puissance de la nation, une action cohérente n'est possible que si nous sommes capables d'articuler les uns avec les autres et de pondérer ces différents objectifs dans une conception du bien commun. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous retournons à une situation du chacun pour soi, pour ainsi dire. Selon moi, c'est plus ou moins la situation qui existait dans les démocraties directes de l'Antiquité. La raison en est que dans ces démocraties, chacun ne représentait que lui-même, pour une raison qui est assez évidente, tout simplement parce que tous les membres de la société qui avaient droit à l'action politique étaient membres à part entière de l'Assemblée. D'où le fait que dans la réflexion sur la démocratie qu'on rencontre dans l'Antiquité, le grand problème qui est mentionné par chacun est celui de l'unité du bien commun. C'est le problème qu'on trouve chez Platon, c'est aussi le problème qu'on trouve dans la tragédie grecque, à un moment donné, dans les Euménides d'Eschyle, à la toute fin, après l'intervention d'Athéna. On entend le chœur qui dit « haïr tous ensemble et aimer les mêmes personnes, tel est le fondement de l'unité, tel est le fondement de la démocratie, parce que il nous faut partager ce bien commun que nous partageons, c'est détester les mêmes ces choses et c'est aimer les mêmes choses. » Le résultat de ça, et on le trouve aussi dans les textes de l'Antiquité, c'est que le conflit sur les options politiques opposées, conflit qu'on trouve par exemple dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, est un conflit qui ne débouche jamais sur un conflit entre des valeurs. C'est un conflit stratégique pour savoir, étant donné que nous partageons la même conception du bien, quelle est la meilleure façon de tenir ce bien que nous recherchons. Soit c'est envahir Syracuse, soit c'est détruire la ville de Mélos. Les uns s'y opposent, les autres sont d'accord, mais dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de remise en cause des valeurs sous-jacentes à cette opération. La valeur est la même, la question est de savoir si nous nous donnons les moyens, les bons moyens, pour la rejoindre. Or, il me semble que l'existence de partis politiques, c'est-à-dire l'existence de représentations, va changer de façon radicale la situation. Pourquoi ? Premièrement, étant donné que chaque parti politique promeut une conception différente du bien commun, et étant donné que chaque parti participe de façon institutionnelle, cohabite au sein de l'institution politique, ce simple fait légitime la dissidence, il légitime le désaccord interminable sur le bien commun. De plus, les partis politiques rendent à proprement parler possible la représentation politique. Alors pourquoi ? Pour ceci, il faut revenir en arrière à ce que je disais au sujet du fait de savoir si les représentants sont tenus par un mandat explicite, au nom duquel on peut les révoquer ou s'ils ne le sont pas. Lorsque les candidats sont tenus par un mandat explicite, le problème est le suivant. Ils se comportent plus ou moins comme des gens qui viennent porter une pétition au pouvoir politique. Ils ne représentent pas à proprement parler tous les membres de leur circonscription. Ils représentent simplement ceux qui ont voté pour l'objectif qui constituait leur mandat, réduire les impôts ou ce qu'on voudra. Au contraire, le candidat d'un parti politique représente, quand il est candidat déjà, premièrement, auprès de ses électeurs, avant son élection, l'idéal de son parti. Une fois qu'il est élu, il représente ce même idéal auprès du pouvoir politique. Et en conséquence de ce fait, il lui est possible de représenter tous les membres de sa circonscription électorale. Non pas seulement ceux qui ont voté pour, mais aussi ceux qui ont voté contre. La raison pourquoi il en est ainsi, c'est parce que il représente en un sens le bien commun de sa circonscription politique. Il représente une conception de comment régler le problème du bien commun pour l'ensemble de sa circonscription politique. Et ce bien commun, par définition, en touche tous les membres. Je voudrais maintenant en venir à la question du pluralisme des valeurs. Le pluralisme des valeurs, par opposition au pluralisme politique, pour ainsi dire, c'est le fait qu'existe à l'intérieur d'une même société plusieurs valeurs différentes, parfois contradictoires les unes avec les autres. Valeurs politiques, religieuses, culturelles, esthétiques, éthiques et communautaires. Celles-ci s'expriment par exemple dans les conceptions du bien commun opposées qui sont typiques des partis politiques des démocraties modernes. Ainsi présenté, le pluralisme politique ne constituerait en un sens, semble-t-il, qu'une expression d'un phénomène plus fondamental qui serait le pluralisme des valeurs. Cependant, le pluralisme des valeurs, ce n'est pas simplement le fait qu'existent à l'intérieur d'une société donnée plusieurs pratiques de vie différentes, incompatibles ou pas, en conflit ou vivant dans l'indifférence réciproque, mais le fait que ces différences en viennent à être représentées en termes de valeurs, ou mieux, à constituer des valeurs. Je m'explique. Il n'existe guère de société suffisamment homogène pour que les pratiques différentes entre les hommes, les femmes, les initiés, les guerriers, les prêtres, les chasseurs, les esclaves ou les marchands n'induisent pas des habitudes de pensée différentes, des anticipations particulières, des façons autres de voir le monde. Mais même dans certaines sociétés primitives, les hommes et les femmes, ou dites primitives, parlent à peine le même langage, tant leur façon de l'utiliser diffère. De plus, les prescriptions rituelles qui entourent les diverses activités ajoutent à la séparation des sous-groupes responsables d'elles, sous-groupes qui sont chacun unis par le partage d'un même rite. Cependant, il n'y a pas encore là de pluralisme des valeurs. Non seulement parce que les anthropologues peuvent, souvent croient pouvoir, reconstruire un système de valeurs homogène et cohérent, sous-jacent à toutes ces différences. Ni la difficulté n'est telle que ce système n'existe nulle part ailleurs que dans la tête de l'anthropologue. Elle est plutôt cette difficulté qu'il n'y a pas là encore à proprement parler de valeurs. Pour qu'il y ait des valeurs, pour que leur façon d'agir soit offerte à des agents comme une valeur, celle-ci doit perdre ce qu'on peut nommer son évidence naturelle. Il faut que la sûreté de l'héritage que constituent les pratiques auxquelles nous sommes socialisés, ainsi que l'unité du regard sur le monde et sur la vie qui les habite, se fissure. Cet héritage ne doit plus être simplement la façon de faire et de penser qui s'impose immédiatement, la façon dont je fais ou la façon dont les autres font. Afin qu'une pratique puisse être représentée comme une valeur, pour qu'elle constitue une valeur, il faut que s'introduise une distance entre l'agent et son action. Distance qui la relativise, cette action, et la lui présente comme une façon de faire parmi d'autres. Ceci suppose une comparaison, et c'est cette comparaison qui lui permet à l'agent d'estimer sa pratique, de la jauger, de faire d'elle une valeur, de la penser en ces termes. Cependant, il n'y a pas encore là de pluralisme des valeurs. Le pluralisme exige de plus que les pratiques des autres aient de la valeur, ou pour le dire autrement, il faut qu'elles soient elles aussi reconnues comme des valeurs. Or, une telle reconnaissance demande plus que la simple comparaison entre les pratiques différentes. La comparaison, en effet, peut conduire au rejet, à la volonté d'exterminer ces autres odieux qui ont des pratiques aussi viles. Elle peut conduire aussi à l'indifférence, à l'acceptation passive de ces valeurs autres comme étant tout simplement les valeurs des autres. On se borne alors à remarquer que c'est ainsi que font les femmes, ou voilà comment agissent les peuples conquis, ou comment pensent les esclaves. Or, ce qu'il faut, ce n'est pas la pluralité des valeurs, ce qu'il faut expliquer, ce n'est pas la pluralité des valeurs, le fait qu'il y en a plusieurs. Ce n'est là qu'une donnée naturelle qui découle de ce qu'il y a plusieurs cultures qui se rencontrent parfois. L'apartheid lui-même reconnaît bien que cette pluralité, et il est tout entier construit sur l'hypothèse qu'elle est indépassable, que ces valeurs plurielles sont irréconciliables. Ce qu'il nous faut penser, c'est le pluralisme, le fait que ces valeurs inconciliables soient offertes à tous comme des options au sein d'un espace politique commun. Or, la thèse que je propose est que la démocratie représentative moderne constitue le moteur de cette transformation de la pluralité des valeurs en pluralisme des valeurs. Le pluralisme politique caractéristique des démocraties représentatives modernes, nous l'avons vu plus haut, institutionnalise le conflit entre ces conceptions opposées, entre des conceptions opposées du bien commun. De ce fait, il confère une valeur aux éléments de chacune. Une telle structure politique reconnaît dès lors, par sa simple existence, que ces valeurs autres ne sont pas simplement les valeurs des autres, mais qu'elles sont aussi, potentiellement, les valeurs de tous. Elle reconnaît qu'elles ont une valeur et qu'elles constituent une option pour chacun. Reconnaissance qui n'a rien de psychologique. La structure institutionnelle se désintéresse de savoir ce que les agents, en leur âme et conscience, pensent des valeurs des autres. Le droit nous impose de l'extérieur, indépendamment de nos désirs ou de notre volonté, cette reconnaissance contre laquelle nous pouvons nous révolter, mais à laquelle nous sommes contraints. Et par cette reconnaissance, le droit devient un élément de transformation sociale qui agit sur les agents individuels et fait progressivement du pluralisme des valeurs lui-même une valeur des agents. De plus, l'alternance politique impose à chacun de vivre jusqu'à un certain point les valeurs des autres. C'est-à-dire que le pluralisme politique établit peu à peu le pluralisme des valeurs dans la vie des individus plutôt que simplement dans l'environnement social. Il l'impose dans l'espace interne tout autant que dans l'espace où nous habitons, où nous cohabitons avec les autres. Cette internalisation du pluralisme agit de plusieurs manières pour favoriser une plus grande abstraction des valeurs et un engagement plus lointain des agents envers elles. Premièrement, parce que dans un contexte politique, les valeurs des uns doivent devenir au moins partiellement acceptables à tous, ou du moins à la vaste majorité. Il en résulte parfois que des valeurs opposées donneront lieu à des pratiques très proches. Deuxièmement, parce que le type d'engagement des agents envers leurs valeurs ne peut plus tout à fait être le même. La proximité des pratiques découlant de valeurs différentes incite les agents à considérer leurs valeurs comme des choses qui existent en elles-mêmes, comme des objets abstraits qui subsistent par elles-mêmes sur un plan de réalité autre que les pratiques ou les actions qu'elles informent. Les valeurs tentent alors à former un monde des valeurs, un monde avec lequel les agents ont un rapport non physique, rapport éthique ou mystique même. Cette transformation de l'ontologie quotidienne conduit alors à penser le pluralisme des valeurs comme un fait en soi, un fait indépendant de tout contexte social et politique, et à considérer que les valeurs sont des choses que les individus peuvent prendre ou laisser au gré des circonstances, et même parfois à penser que les individus ont un devoir moral à découvrir quelles sont leurs vraies valeurs. Mais il y a plus. La structure institutionnelle du pluralisme politique amène inévitablement les agents qui y participent à agir en fonction de valeurs différentes, dont certaines ne sont pas les leurs et qui, d'une certaine manière, ne peuvent pas être les leurs. Je m'explique. Dans les régimes où règne le multipartisme, le rôle de l'opposition est de s'opposer. Il n'est généralement pas nécessaire de le lui rappeler. Cependant, ceci ne va pas sans créer parfois des conflits. En effet, telle ou telle mesure proposée peut paraître éminemment valable à un individu, compte tenu de ses valeurs qui sont celles de l'opposition, et cela malgré le fait qu'elles soient mises de l'avant par le gouvernement, par ceux qui détiennent des valeurs contraires. Il est alors souvent enjoint aux individus, par la discipline du parti par exemple, de s'opposer à cette mesure, même si elle représente une incarnation claire de l'idéal qu'ils recherchent. Ce conflit entre deux valeurs, ce qu'on pourrait nommer un devoir d'opposition, et la conception du bien commun que l'individu promeut, peut être résolu de façons différentes. Par exemple, en hiérarchisant les valeurs, en faisant de la discipline du parti la valeur première, ou en représentant cette opposition paradoxale à ses propres valeurs comme une nécessité stratégique ou comme indispensable au fonctionnement démocratique, soit finalement par l'abandon du rôle d'opposition et par la collaboration, dans ce cas particulier, avec le pouvoir. Mais dans tous les cas, y compris le dernier, le conflit des valeurs en jeu ne peut que complexifier le rapport de l'individu avec ses propres valeurs, augmenter leur abstraction et introduire plus profondément encore en lui le pluralisme des valeurs. Car la dernière solution n'est pas finalement très différente des autres. Celui qui l'adopte reconnaît lui aussi l'existence du pluralisme des valeurs à l'intérieur d'un même individu, sauf qu'il ne le reconnaît que chez les autres, alors que lui-même entend rester pur, fidèle à ses propres valeurs. Cependant, cette volonté est inévitablement vouée à l'échec, car pour rester fidèle à ses valeurs, il est obligé de sacrifier l'une d'entre elles, son devoir d'opposition, et en conséquence, il est contraint de participer, ne serait-ce que par association, à des valeurs qui ne sont pas les siennes. Or, le pluralisme politique a eu, je crois, un effet d'entraînement qui s'est peu à peu propagé à l'ensemble de la culture. Ce processus trouve son origine historique, selon moi, dans la décision politique en faveur de la tolérance religieuse. Celle-ci a permis la cohabitation au sein d'un même État de pratiques religieuses différentes, cohabitation jusque-là jugée impossible. Mais pour y arriver, il a fallu un double mouvement. D'une part, les différentes dénominations religieuses ont été forcées par l'État de renoncer à imposer à tous leur conception de la vérité religieuse, mais sans pour autant être contraintes d'abandonner leur volonté de l'offrir à tous comme une option. D'autre part, pour justifier la coexistence de pratiques religieuses différentes, on a eu recours au rapport interne de l'individu à sa propre croyance, et on a déclaré que ce rapport échappait au pouvoir de l'État. Les différentes valeurs religieuses et les pratiques auxquelles elles donnent naissance ont alors été légitimées par le rapport que les individus qui y adhèrent entretiennent avec elles. Une fois la question de la diversité religieuse résolue, et en un sens c'était le cas le plus difficile de pluralisme des valeurs, parce qu'il touche au salut éternel, la même méthode pouvait être presque automatiquement étendue à toute valeur susceptible de satisfaire aux deux mêmes conditions, la légitimation par le rapport interne de l'individu à la valeur et les restrictions imposées au comportement externe associé à la valeur. Quelle que soit donc l'origine de la pluralité des valeurs, le pluralisme des valeurs, pour sa part, est indissociable d'un certain type d'organisation politique. De plus, il faut voir ce pluralisme comme un processus historique plutôt que comme un fait. Il faut le considérer comme le résultat du travail de la démocratie, ce qu'on peut nommer le travail de la démocratie. C'est pourquoi il me semble impossible de mettre un terme à ce mouvement de diversification des valeurs sans du même coup étouffer la démocratie, ce qui ne veut pas dire que le pluralisme des valeurs ne pose pas de problèmes politiques et sociaux importants. C'est vers ces difficultés que je voudrais me tourner pour terminer, en tout cas vers un certain aspect d'entre elles. La tradition philosophique récente, de langue anglaise en particulier, entend par pluralisme une doctrine politique issue plus ou moins directement du libéralisme politique et selon laquelle chaque groupe, chaque minorité ethnique, culturelle et religieuse, a un droit égal à voir ses propres valeurs protégées et défendues par l'État. Ou pour le dire autrement, c'est l'idée qu'aucune légitimité particulière, et en conséquence qu'aucun avantage particulier, ne doit s'attacher à certaines valeurs du fait qu'elles sont soit les valeurs de la majorité, soit les valeurs de la nation historique. De ce point de vue, toutes les valeurs, pour ainsi dire, se valent, soit parce que toutes les cultures ont droit à un égal respect, soit parce que nous avons une obligation morale et politique de reconnaître comme égaux les individus qui adhèrent à ces valeurs et à l'épanouissement desquelles elles sont indispensables. Cette doctrine politique du pluralisme n'est donc pas du tout identique avec le pluralisme des valeurs tel qu'il a été présenté plus haut. Plus précisément, le pluralisme entendu en ce sens, ce que je nommerai le pluralisme philosophique, faute de mieux, se veut une solution à la fois politique et morale au problème que pose le pluralisme des valeurs, engendré par l'exercice démocratique, selon moi. Mais cette solution, je crois, n'est ni la seule solution possible, ni la meilleure. À première vue, elle semble découler simplement et assez directement du processus même qui produit le pluralisme des valeurs. En effet, si les valeurs des autres doivent être respectées, comme il a été dit plus haut, en raison du rapport que les individus qui y adhèrent entretiennent avec elles, il est clair que les individus ont droit à ces valeurs. Or, ce que fait remarquer le pluralisme politique, c'est en un sens l'hypothèse empirique à son fondement, c'est que les valeurs, quelles qu'elles soient, ne peuvent exister que si elles sont portées par une communauté, que si elles sont respectées, que si leur valeur, puisqu'il faut utiliser le même mot, est reconnue au sein de l'espace social. C'est à ce prix seulement, disent les pluralistes, que les valeurs peuvent servir à l'épanouissement des personnes et que les individus peuvent entretenir avec elles le rapport qu'exige la justice, ou pour le dire autrement, dans un langage différent que la théorie de la justice de John Rawls a rendu familier. Dans une société juste, l'accès aux valeurs culturelles et communautaires constitue un bien premier qui doit être distribué également. Cette impression qu'il s'agit là d'une conséquence normale du pluralisme des valeurs est, selon moi, trompeuse pour au moins deux raisons. Premièrement, le pluralisme politique, s'il rend possible le pluralisme des valeurs, rend aussi les valeurs plus abstraites et permet la cohabitation de valeurs inconciliables en transformant le rapport que l'individu entretient avec les valeurs. Il métamorphose les pratiques de différents groupes en valeurs de certains individus. Il rend plus individuel le rapport des agents que les agents ont à leurs valeurs. S'insurger contre le caractère individualiste et abstrait de ce rapport aux valeurs, sous prétexte qu'il est artificiel, ce n'est pas, je crois, défendre le pluralisme des valeurs, mais tenter d'en fixer, d'en arrêter un moment particulier et qu'on voudrait définitif. C'est chercher à nier, en fait, l'effet de l'exercice démocratique sur le monde de nos valeurs. Je vais en donner un exemple canadien. Poussé à l'extrême, comme il a été dans une décision il y a quelques années prise par le Conseil des arts du Canada, il équivaut plus ou moins à une forme d'apartheid culturel. Un arrêté du Conseil des arts, qui est au Canada le principal organisme gouvernemental qui subventionne la création artistique. Cet arrêté invoquait le respect qui est dû à la culture des autres et il a été décidé que dorénavant, aucune subvention ne serait donnée à des projets qui visent une communauté autre que la communauté d'origine de celui qui demande la subvention. C'est-à-dire qu'un auteur juif de Toronto ne peut pas être subventionné pour écrire un roman qui se déroule dans un milieu francophone de Montréal. Ni un peintre canadien d'origine antillaise pour préparer une exposition sur les communautés ukrainiennes de l'Ouest du Canada. Une telle décision, indépendamment de la rhétorique du respect de l'autre qui la motive, conduit à un tout autre résultat que le pluralisme des valeurs. Elle ne participe pas du processus par lequel les valeurs incompatibles sont offertes à tous. Elle limite au contraire l'accès aux valeurs à ceux dont elles sont les valeurs d'origine. Elle vise à empêcher que les valeurs des uns soient reprises, transformées et inévitablement remises en cause par les autres. Elle transforme de ce fait les valeurs de chacun en un patrimoine intangible, je veux dire cette décision transforme de ce fait les valeurs de chacun en un patrimoine intangible auquel elle propose de consacrer une salle plus ou moins grande au musée de l'humanité. Ceci nous amène à la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas considérer le pluralisme des valeurs, ou le pluralisme philosophique plutôt, comme déroulant directement du pluralisme des valeurs, mais plutôt comme une réaction contre lui. En tentant d'enfermer les individus chacun dans sa propre culture et dans les valeurs de sa communauté, même si c'est en invoquant le prétexte noble de l'épanouissement personnel, ce pluralisme empêche la remise en cause de toutes les valeurs qui est inhérente à la division démocratique. C'est le propre de celle-ci, nous l'avons vu, de rendre de plus en plus abstraites les valeurs et de contraindre les individus à être toujours partagés entre des valeurs différentes et souvent contradictoires. C'est à cette situation, par bien des côtés inconfortables, que le pluralisme philosophique, ce que j'ai nommé tel, veut mettre un terme. Mais si cette situation découle, comme je le crois, du simple fonctionnement de nos institutions démocratique, le prix à payer pour ce confort est très certainement beaucoup trop élevé. Je vous remercie.
Oui, la question c'était par rapport au travail de René Girard, qui lui est assez sceptique sur l'avenir de l'humanité sans passer par la médiation du Christ. Et je voulais savoir votre sentiment maintenant, en l'an 2000, vu les l'évolution de la démocratie. Est-ce que vous êtes, vous restez optimiste quant à la démocratie qui se trouve de plus en plus confrontée au problème de l'intégrisme ou bien de d'autres évolutions?
Enfin, je vais répondre un peu indirectement. Okay. Je pense que la thèse de Girard sur le rôle du christianisme, c'est qu'effectivement, le christianisme est historiquement la force première de la mise en place de ce que j'appelle le pluralisme des valeurs. Et pourquoi? Parce que il participe d'amener les individus à remettre en cause leurs propres engagements traditionnels et culturels traditionnels au sujet par une discussion propre sur le bien fondé de de ces engagements. Or, ceci veut dire que les crises que nous vivons, hein, me semble-t-il, dans cette optique, sont des crises véritables, puisque effectivement ces valeurs sont toutes remises en cause. Et la question de l'optimisme est une question à laquelle je ne sais pas ce qu'il faut répondre, me semble-t-il. En essence, la démocratie est un système qui a été mis en place. Enfin, il faut répondre autrement. Dans la pensée de Girard, il n'y a pas de place pour un système politique, en essence. Il n'y a que des médiations culturelles traditionnelles et il n'y a que le fait que le christianisme nous amène, nous amenant à la destruction de ces médiations traditionnelles, religieuses ou culturelles traditionnelles, nous sommes laissés devant rien et notre seule solution est celle du renoncement total à la violence et du royaume de Dieu. Il me semble pour ma part, et là je suis un peu en désaccord avec Girard, que l'invention de la démocratie représentative moderne, et d'ailleurs de l'économie de marché qui va avec elle, c'est l'invention d'un type de médiation sociale qui nous permet de survivre jusqu'à un certain point dans la destruction de ces dans une situation où ces médiations traditionnelles disparaissent. Jusqu'à quel point est-ce que ce système qui, je crois, a eu du succès depuis 300 ans, 400 ans, jusqu'à quel point est-ce qu'il aura du succès dans l'avenir? C'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre, je crois, si c'est ça le sens ultime de votre question. Mais je crois que certains mouvements qui sont sous prétexte de pluralisme des valeurs, comme ce dont j'ai parlé à la fin, qui sont des mouvements qu'on appelle le pluralisme, qui sont en réalité des formes d'intégrisme culturel, sont véritablement ce qu'il nous faut tenter d'éviter.
Dans une démocratie pluraliste politique, le parti qui a le pouvoir, pour garder ce pouvoir, a tendance à diaboliser les autres partis par la maîtrise, entre autres, des moyens de communication. Est-ce que cette pratique très humaine, mais dommageable, n'a-t-il pas une influence sur le pluralisme des valeurs? Et comment la démocratie pluraliste peut-elle lutter contre cette chose?
Ce que j'essayais de dire, enfin, non pas ce que j'essayais, une des choses que j'essayais de faire tout au long, peut-être avec un succès incertain, c'est de distinguer entre ce qui est inscrit dans une structure institutionnelle et ce qui dépend des intentions des agents. C'est-à-dire que qu'un parti politique ou que des agents à l'intérieur d'un parti politique aient des visées particulières, c'est une chose. Ce qui nous protège contre le résultat néfaste que peuvent avoir ces visées, c'est en grande partie le fait que la structure institutionnelle est que nous maintenions une structure institutionnelle qui nous permet d'y résister. C'est ça l'important. Donc le fait que, par exemple, un parti politique, par le contrôle des médias, essaie de diaboliser ses opposants, ceci, la meilleure façon d'y résister, c'est de faire en sorte que, par la structure institutionnelle, ce contrôle sur les médias reste limité. Et ça, c'est des choses qui sont des choses qui ne sont jamais acquises, je pense, qui sont toujours des questions politiques constantes et des enjeux de lutte constants, mais des enjeux fondamentaux. Je pense que la nature de la solution politique, c'est qu'une solution politique n'est jamais définitive. Elle doit toujours être reprise à chaque jour.
L'exemple que vous avez donné, celui de l'arrêté du Conseil des Arts, ne nous le montre-t-il pas davantage que certaines valeurs seraient une prison intangible plutôt qu'un patrimoine. Deuxième question, est-ce que toute valeur est respectable? Par exemple, celle de profit au nom de laquelle les dames sont invitées à retourner au travail la nuit par un récent vote, est-ce vraiment une valeur respectable?
Mais je ne pense pas que toutes les valeurs sont nécessairement respectables. Le pluralisme des valeurs, c'est justement de permettre que la discussion sur les valeurs soit toujours possible. Et je pense que ce que j'ai appelé le pluralisme philosophique tout à l'heure, en faisant appel à une certaine approche, la réalité du Conseil des arts du Canada en est un exemple, une certaine approche à la question du pluralisme des valeurs, c'est justement de dire, mais puisqu'il y a des valeurs plurielles, puisque toutes les valeurs sont respectables, protégeons-les toutes. Moi, je pense qu'au contraire, il ne faut pas les protéger toutes. Il faut au contraire qu'elles soient toujours mises dans une situation, et je pense que ça fait partie de la nature de la démocratie, soient toujours mises dans une situation où elles sont susceptibles d'être mises en cause. Donc, je ne crois pas que toutes les valeurs sont nécessairement respectables. Par contre, je crois qu'il est important que la structure institutionnelle nous impose comme point de départ qu'il n'y a pas de valeurs que nous devons refuser. Ce sont deux choses différentes. Ah, pour le Conseil des arts. Alors, l'arrêté du Conseil des arts, moi, je sais pas s'il a été renversé ou pas par la suite, ça fait quelques années, et j'avoue que je n'avais pas suivi l'histoire avec attention. Je pense que l'arrêté du Conseil des arts est un arrêté, j'allais dire, de conservateur de musée. C'est un peu ça que je voulais dire. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se disent, oui, il faut protéger toutes ces valeurs indépendantes, mais qui pensent que pour les protéger, la meilleure façon... il faut en faire des prisons pour les gens. Et je crois que ça, c'est une erreur. Je crois qu'au contraire, il faut que ces valeurs puissent être reprises par d'autres. Et je pense qu'il faut que des photographes antillais photographient les communautés ukrainiennes, et quitte à ce que les Ukrainiens considèrent par la suite que ces photographies ne les respectent pas. Parce que, non pas parce qu'il faut que les photographies ne les respectent pas, mais parce que si on doit mettre comme règle sur... la discussion sur les valeurs, le fait que celui dont c'est les valeurs d'origine a une autorité, un veto absolu sur la reprise de cette valeur par quelqu'un d'autre, alors là, il n'y a plus de pluralisme des valeurs. Il y a un apartheid culturel. Hein? Ça, c'est ce, moi, je pense que c'est fondamental. Ça.
Une question là, madame, et une question après.
Oui, en France, nous avons des antagonismes récurrents vis-à-vis de l'éducation. Alors, je ne sais pas comment on pourrait sortir de ce problème, puisque cet antagonisme correspondrait à un pluralisme des valeurs, mais ceux qui ont fondé la République sont constamment opposés à ce type de pluralisme.
Écoutez... Le problème des valeurs dans l'éducation française est, surtout pour un Canadien, un problème délicat. Je peux dire la chose suivante, par contre. C'est lié en partie au système éducatif français, de façon profonde. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis la Révolution française, le système d'éducation française se comprend lui-même, me semble-t-il, comme la façon de passer un certain type, un certain nombre de valeurs, qui sont essentiellement des valeurs républicaines, et de les, sinon les, peut-être pas nécessairement les imposer au sens fort, mais en tout cas, certainement de les faire passer. D'où le fait que l'entrée de pluralisme à l'intérieur de l'école française pose un problème énorme. D'autre part, ce système est extraordinairement centralisé du point de vue, par exemple, d'un pays comme le Canada. Ou au Canada, le fait que des enfants musulmans veuillent porter des signes de leur religion, c'est un problème qui se pose de façon différente dans la mesure où ça va toucher une école ou une commission scolaire qui regroupe trois écoles. Et on prendra la décision à ce niveau-là. Et ça n'aura aucun effet sur l'ensemble de la nation. Mais en France, comme ça va tout de suite remonter au ministère de l'Éducation nationale, la décision qui sera prise aura comme obligation de représenter la position officielle de l'État sur la question. Alors, ça, il y a quelque chose là qui, effectivement, d'après moi, rend la solution beaucoup plus difficile. Et dans les pays où la structure institutionnelle est différente, ben, souvent les choses meurent d'elles-mêmes avant d'être devenues une question nationale. C'est un peu... Enfin, mais ça, j'avoue que c'est vraiment le regard d'un étranger.
L'exposé que vous nous avez fait peut, d'une certaine façon, sonner assez curieusement si on le réfère à ce qu'on peut penser raisonnablement être la conjoncture du moment. Votre analyse du pluralisme politique, moi, je ne l'entends pas en écho véritable avec une conjoncture intellectuelle et politique dans laquelle, me semble-t-il, le pluralisme politique a, dans de nombreux pays, et je crois que c'est vrai dans le nôtre, laissé largement la place à des mécanismes d'unicité politique ou d'unicité de la pensée politique entre les différents partis qui pourtant sont différents, et par ailleurs, ouvert des situations où l'affirmation d'une volonté de différence par rapport aux politiques qui sont pratiquées au sommet de l'État émane très largement de mouvements qui ne prennent pas la forme de partis concourant à la démocratie représentative. Si vous prenez en France des situations récentes, comme par exemple le mouvement des sans-papiers, comme par exemple le mouvement des chômeurs, ou comme par exemple certaines manifestations du mouvement des parents d'élèves et des professeurs contre une certaine orientation de la politique d'éducation, vous avez en réalité un pluralisme qui ne s'exprime pas à travers l'opposition des partis, mais un pluralisme qui s'exprime à travers, disons les choses assez grossièrement, l'idée qu'il n'y a pas que les partis qui dirigent l'État ou qui sont susceptibles de le diriger, qui peuvent penser la politique et la transformation des choses, mais les gens actifs dans les mouvements peuvent être porteurs de ça. La réponse, par exemple, qu'avait fait le gouvernement français actuel au mouvement des chômeurs était, en gros, interdit au mouvement des chômeurs de penser une autre place du chômeur dans la société parce que le gouvernement a une politique contre l'emploi qui a ses contraintes. Et la politique du gouvernement sur la question de l'emploi menée par ce gouvernement était, d'une certaine façon, très proche de celle qu'aurait menée un autre gouvernement. Alors, comment vous situez votre propos sur le pluralisme politique et sur la démocratie représentative dans leur union essentielle à vos yeux, dès lors que vous ne faites pas intervenir ces mécanismes de déclin majeur du pluralisme politique et par ailleurs de crise de la démocratie représentative dans le mécanisme même de la représentation?
Oui, je vous remercie. Je crois que ce que vous dites, et c'est tout à fait juste, c'est que mon intervention est comme disait l'autre, une considération inactuelle. Oui, effectivement, en un sens, c'est un plaidoyer, d'une certaine façon, pour le retour à un pluralisme politique qui nous éloigne du type de, me semble-t-il, de gestion par une élite politique qui est la nôtre. Je pense effectivement que, alors là, j'ai laissé de côté tout un ensemble de mouvements qui sont d'un autre ordre, et effectivement par lequel le pluralisme se manifeste. La question de savoir maintenant, c'est est-ce que... la question, c'est une question pour l'avenir. Elle est de savoir si demain, il est possible d'imaginer une renaissance de mécanismes qui ressemblent plus à ce qu'a été, parce que peut-être il faut déjà parler au passé, à ce qu'a été la démocratie représentative, hein, pour l'expression et pour le développement de ce pluralisme, ou est-ce que ceci va passer essentiellement par des mouvements qui ne seront pas des mouvements politiques au sens traditionnel du terme. À l'heure actuelle, l'impression, c'est bien que ça passe par d'autres types de mouvements. Mais il n'est pas clair, enfin du moins à mes yeux, que ceci peut continuer au-delà d'un certain seuil, et si ce qu'on va voir apparaître, ça ne va pas être quelque chose qui est simplement des forces, enfin une espèce de lobbying social auprès d'une élite politique. Et je ne suis pas sûr que si nos sociétés doivent évoluer dans cette direction-là, que c'est nécessairement la plus intéressante. Même s'il est vrai que, très souvent, à l'heure actuelle, les changements les plus importants ont souvent lieu par des choses qui s'expriment à l'extérieur de l'opposition politique comme telle, ça c'est certain. Mais en un sens, c'est, comme je le dis, c'est une considération inactuelle et un plaidoyer pour le fait que notre régime politique s'éloigne un peu plus de cette espèce de gestion par une élite politique qui est ce qu'il est devenu.
Une question là-haut, je
pense. Oui, tout à fait. Ma question est un peu dans ce sens-là. L'étude des politiques publiques a pour objet de montrer que finalement, le parti politique n'est qu'un maillon dans une chaîne beaucoup plus large. En effet, les médias, les scientifiques, également les lobbies, dans leur acception positive, jouent un rôle essentiel dans l'émergence d'un problème, la rédaction de la décision, la prise de la décision et le contrôle de son application. Je pense que, personnellement, le lobby, dans son action positive, je le répète, est une chose inhérente et nécessaire à toute vie politique. Mais le problème, c'est qu'il faut un équilibre. Or, ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, derrière une apparence de démocratie représentative, les lobbies ont un rôle beaucoup plus important qu'ils ne devraient l'avoir, et notamment à Bruxelles, hein, puisque là-bas, il y a quand même des cabinets de lobbying qui ont pignon sur rue, et que finalement, leur rôle dans l'émergence d'une politique crée finalement une apparence de démocratie représentative, ce qui est finalement dangereux, puisque pour la plupart des citoyens, il y a un effet de démocratie qui finalement n'est pas réel.
J'ai envie de retourner à la question et en disant qu'est-ce que la démocratie réelle ? Je veux dire par là que nous avons tous une intuition très bonne de situations politiques qui ne sont pas la démocratie réelle. Mais nul d'entre nous, s'il est interrogé, ne saurait répondre très nettement à ce qu'est la démocratie réelle. Et peut-être qu'une des intuitions que nous avons de ce qu'est la démocratie réelle, c'est la démocratie directe. Une des choses de ce que je voulais dire, c'était que bien que la démocratie directe nous apparaisse souvent comme la démocratie parfaite au niveau du rapport éthique de l'individu à lui-même, je pense qu'elle a un effet politique complètement différent de ce que a la démocratie représentative, dans la mesure où elle n'a pas justement cet effet de remise en cause sur les valeurs qui est propre au pluralisme. Maintenant, s'il est vrai qu'il y a plein d'autres forces qui jouent sur le fonctionnement politique, à tel point qu'il est souvent... facile, ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas, il est toujours possible, et peut-être avec plus de succès, de donner une description des décisions qui ont été prises qui montrent que le politique n'a été qu'un jouet dans un ensemble de forces qui ont circulé à gauche, à droite, étant des forces économiques, scientifiques, ce qu'on voudra, des lobbies. Il est toujours possible de faire ça, je crois, dans nos sociétés. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le fait qu'il existe un lieu de représentation, quelle que soit sa valeur effective, un lieu de représentation où nous sommes obligés, jusqu'à un certain point, de retraduire ces choses-là dans un langage du bien commun auquel nous avons à prendre discussion, est-ce que ça veut dire que ce phénomène-là n'a pas d'effet ? Or, moi, je pense que ce phénomène-là, cette obligation, est une obligation qui a un effet véritable. Qui a un effet véritable sur la façon dont nous représentons le monde, sur la façon dont nous pensons ce qui est important pour nous. C'est ça que je pense. Alors, ce que ça veut dire, c'est que si on passe à un régime où on se dit, mais soyons cohérents avec nous-mêmes, abandonnons cette plaisanterie, ce masque de la démocratie représentative, et passons à un régime qui est tout simplement un régime efficace de gestionnaire politique. Et moi, je dis qu'il y a, même si ce régime, je dis qu'il y a beaucoup à perdre à faire ça, même si ce régime politique, de représentation politique, n'est qu'un masque. Je pense que ce masque a peut-être un rôle plus important que le rôle que nous lui offrons lorsque nous ne le pensons que comme un masque. Maintenant, c'est ce que je pense, quoi. Je veux dire par là que ce n'est pas quelque chose que je suis capable de démontrer.
Vous prenez le pluralisme des valeurs pour la personne. Est-ce que ça ne va pas entraîner chez cette personne une perte d'identité, une uniformité ?
Ah, bon, oui, je vous remercie. Effectivement, je pense que le pluralisme des valeurs est en fait, il faut penser que ça a eu un effet sur qui nous sommes. Ça a déjà eu un effet sur qui nous sommes. Et que dans nos rapports avec nos valeurs, nous avons des rapports très complexes et souvent pas très clairs. Et c'est vrai qu'en un sens, ça entraîne une perte d'identité. Si l'identité, c'est premièrement, doit être pensée comme le rapport que nous avons à certaines valeurs partagées, et ainsi de suite. Mais je pense que même ça, hein, c'est un moment dans l'histoire de l'évolution des rapports des individus à leurs valeurs que celui par lequel nous avons décidé que le moment où on a pensé qu'un individu bien constitué, c'est quelqu'un qui se reconnaît comme étant appartenant à son groupe, quoi. Je pense qu'en un sens, ceci nous échappe de plus en plus, et je pense que c'est notre avenir. C'est inconfortable. Qu'est-ce que cela va donner? Je ne le sais pas. Mais je ne pense pas que nous sommes capables, pour des raisons politiques profondes, de retourner à cette espèce de communauté de valeurs unies. Ça, c'est rêver à des fondamentalistes. Finalement, en dernière analyse, que ça nous est interdit parce que le prix politique à payer est beaucoup trop élevé et qu'on ne voudra pas le payer.
Paul de Mouchel, je vous remercie.